Bonjour Emmanuel Faux, l'Inactualité reprend l'antenne sur Europe 1. On est ensemble jusqu'à 16h, qui vive, c'est parti.
Europe 1, 15h, 16h, qui vive. Raphaël Antoven.
Tout est joué dans la vie. Un même homme, dit-on, joue en un seul jour plus de rôles différents que l'acteur le plus sollicité n'en incarne souvent en toute une carrière. Tout est joué. Ce qui ne veut pas dire que tout est écrit, mais que tout, presque tout, peut devenir ludique. Seulement, à quoi joue-t-on quand on joue? Quel est l'enjeu du jeu? Et comment jouer sans oublier qu'on joue? Sans jouer qu'on ne joue pas? Mais comment jouer sans se prendre au jeu? Et comment se prendre au jeu sans cesser de jouer? Qui vive parle du jeu aujourd'hui sous la forme qu'on lui connaît le plus désormais, une forme archaïque et futuriste à la fois, le jeu vidéo.
There's a horizontal knob here, as you can see, which, when I twiddle it, moves my paddle from left to right.
Et c'est à cet homme, Ralph Baer, que l'on doit la première avancée spectaculaire dans le monde du jeu informatique. Ce dernier invente un jeu de ping-pong sur un écran de télévision. On s'y renvoie un carré, figurant la balle, à l'aide d'une raquette rudimentaire.
Ici, le salon des boissiers. La partie est acharnée. Le score, 13-12 en faveur de Pierre. Service à Marc. Tout est encore possible. Très bonne reprise de volée, retour croisé, égalisation.
Bonjour Jean Z.
Bonjour.
Bonjour, c'est un grand plaisir de vous accueillir dans Qui Vive sur Europe 1. Après vous avoir tant croisé, avouons-le, dans les couloirs de la maison de la radio, c'était dans une autre vie, il n'y a pas si longtemps. Vous êtes journaliste, spécialiste des nouvelles technologies, chroniqueur jeux vidéo, geek officiel de nos amis de France Info et le commissaire d'une expo formidable sur les jeux vidéo et aussi l'auteur d'ailleurs de Le jeu vidéo à travers le temps. C'est paru au Seuil et c'est donc de vous. Alors, un petit point, on vient d'entendre un extrait de la fabuleuse histoire du jeu vidéo. Le documentaire de Charles-Henri Flavigny et Alexandre de Seguin, raconté par Laurent Deutsch, dans lequel il parle de l'inventeur de ce qui est considéré comme le premier jeu vidéo. L'inventeur, c'est Ralph Baer. Et alors, le jeu vidéo, comment est-ce qu'on l'appelle, en fait, ce jeu où il y a deux planches qui se renvoient la balle, comme ça?
C'est Pong.
Pong.
Pong. Mais Pong, mais Ralph
Baer. J'ai tellement joué à ça.
Oui, mais évidemment, c'est le Big Bang. Hein, c'est un Big Bang économique, d'abord, hein, le jeu vidéo. 72, Pong arrive dans les salles d'arcade et va s'imposer face aux flippers.
On est
face
en 72.
On est en 72, mais Ralph Baer n'est pas l'inventeur de Pong. Il s'est fait un peu shipper, la vedette, il faut le dire, par un certain Nolan Bushnell, qui est lui le patron, et le futur patron d'Atari. C'est lui, en fait, le père du jeu vidéo en tant que divertissement mondialisé, en tant qu'économie, en tant que divertissement interactif. Ralph Baer, lui, il avait dans l'idée de mettre des jeux dans la télé, directement dans les foyers. C'est ça qu'il voulait faire depuis les années 50.
Il avait 30 ans d'avance sur l'inventeur d'Atari, du coup il était en retard sur lui. Oui.
Et effectivement, il s'est retrouvé en retard quasiment la même année, mais ce n'est pas lui l'inventeur de Pong, et pourtant c'est lui le père des jeux vidéo, c'est comme ça qu'on peut dire. Il a déposé les brevets, premier brevet, 4 petites pages d'un croquis sur les jeux vidéo en 1966.
Et donc on peut considérer que le premier jeu vidéo c'est Pong?
On peut considérer que le premier jeu vidéo mondialisé réellement qui a fait connaître, aujourd'hui on parle de jeux vidéo, tout est normal, vous voyez, même les gens qui détestent savent de quoi ils parlent quand ils parlent du jeu vidéo, mais à cette époque on ne savait même pas ce qu'était le jeu vidéo, et surtout on ne savait pas le nommer. On parlait de jeux d'adresse, de jeux télé, de téléjeux, mais pas de jeux vidéo. Le jeu vidéo, ce terme, cette terminologie s'imposera à la fin des années 70.
Et pourquoi est-ce que cette terminologie s'impose à la fin des années 70? Rappelons qu'en latin, vidéo, ça veut dire je vois. C'est le verbe voir. Pourquoi est-ce qu'on s'est mis à appeler ça comme ça?
Comme souvent, c'est le grand public qui choisit. Comme il s'est choisi des mascottes un peu bizarroïdes, comme Mario, un plombier italien, pourquoi lui et un autre? Et bien, ils ont choisi jeu vidéo parce que jeu d'adresse vidéo, non, ça sonnait mal. Ce sont surtout les jeunes. Hein. Et pourtant, les parents ont acheté, ne se sont pas méfiés à l'époque. Ils ont acheté des machines de jeu dans les années 70. Mon papa aussi m'a acheté une machine de jeu dans les années 70.
Et moi donc.
Et voilà, donc on a plein de souvenirs là-dessus. Pourquoi il s'est imposé? Parce que c'est une forme simple et qui n'appartenait qu'à nous, comme le jeu vidéo, il n'appartenait qu'aux jeunes.
On a tant de souvenirs, je ne veux pas transformer cette émission en un congrès de quadras qui discutent, n'est-ce pas, qui pleurent sur leur enfance, mais enfin quand même.
Oui.
Space Invaders,
oui.
Pac-Man, Tetris, tous ces jeux-là qui ont orné, embelli notre enfance, ont en commun, et je voudrais vous entendre là-dessus après avoir écouté ceci, d'être tous extraordinairement angoissants. Écoutez ça.
Europe 1, qui vive. Raphaël Antoven.
Tetris est un jeu vidéo de puzzle conçu par Alexei Pajitnov en 1984 qui met le joueur au défi de réaliser des lignes complètes avec les Tetriminos, ces pièces qui tombent à vitesse croissante et qu'il faut déformer et déplacer, pas déformer, déplacer pour les emboîter. Évidemment, le jeu n'a pas de fin, Jean Z. Le joueur perd la partie lorsqu'un Tetrimino reste bloqué en haut. Et il doit donc résister le plus longtemps possible à cette chute continuelle. C'est dire que de toute façon, la défaite est garantie, la défaite est promise. Il y a quelque chose d'extrêmement angoissant dans cette pyramide qu'on essaie de conjurer et qui finit quand même par l'emporter.
Effectivement, mais ce qui permet de le conjurer, c'est le high score, ce fameux high score, effectivement.
Ouais, mais c'est un mythe le high score du Tetris. Vous l'avez atteint, vous ?
Tetris, je n'ai jamais vu la fusée.
Moi, je l'ai cherché pendant des années, le high score de Tetris. Mais
j'ai croisé une maman, pas plus tard que ce matin, à l'exposition, et qui m'a dit « Ah oui, Tetris, mais j'étais tellement contente quand j'ai vu la fusée. » Alors intérieurement, j'ai fulminé de jalousie. Extérieurement, pas du tout. Je suis resté digne. Je ne lui ai pas dit que je n'avais jamais vu cette fameuse fusée. Mais effectivement, il y a surtout cet enjeu de vitesse. Space Invaders, c'est pareil. Ça va de plus en plus vite. On est obligé de perdre, enfin, finalement.
Au début, tout va bien.
Exactement.
C'est ça qui est étonnant. On est installé dans un univers confortable où on a le sentiment de la maîtrise. Mm-hmm. Space Invaders, mm-hmm. Tetris, oui. Pac-Man. Mm-hmm. Et puis, assez vite, on perd la tête.
On perd
plus exactement,
tête.
C'est insensiblement, on se retrouve dans un monde qui va trop vite pour nous.
Oui, et quand j'ai discuté, ça me rappelle une discussion avec un développeur français qui s'appelle Michel Ancel, créateur des Lapins Crétins, entre autres, et de Rayman. Et il me dit, c'est étrange, quand on met un énorme boss, mais sans difficulté, un énorme monstre au milieu de l'écran, tout le monde a peur. Et tout le monde fait n'importe quoi. Et tout le monde perd. Et il y a un peu de cet enjeu dans Space Invaders au Tetris. C'est-à-dire que la vitesse, c'est insensible. Enfin, je veux dire, c'est une très petite montée, c'est un très petit crescendo, et pourtant on a une espèce d'angoisse intérieure qui monte tout de suite, comme les monstres de Michel Ancel, et qui, je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur de nous pour qu'on ait cette espèce de peur tout de suite dès qu'il se passe quelque chose à l'écran. Hop,
quelle est la angoisse. Quelle est la part de la musique selon vous dans la constitution de cette angoisse? Tout le monde connaît la mélodie de Tetris, même ceux qui n'ont jamais joué à Tetris. C'est une mélodie qui rend fou, ça va très vite, il y a très peu de notes, ça rend dingue. Ça rend dingue, c'est addictif en même temps, c'est comme un bonbon dont on sait qu'il est mauvais de le manger et on peut pas s'en empêcher quand même, c'est les oreilles qui mangent un bonbon. Quel est le rôle, comment est-ce qu'on trouve ça? Parce qu'on fait grand cas des musiques de films, on fait moins grand cas des musiques de jeux vidéo, on a tort.
On a tort, mais parce que c'est un parent pauvre, le jeu vidéo, l'industrie du jeu vidéo a toujours misé on va dire sur le superficiel, c'est-à-dire l'image, et la belle image, les effets spéciaux, bref, il fallait qu'on s'en prenne plein les yeux. Et finalement, le son a été le parent pauvre, et pourtant, la musique de Pac-Man, exactement, qui... Voilà, on l'a dans l'oreille. La musique de Space Invaders qui s'accélère, hein, son concepteur Nishikado.
On l'a tellement dans l'oreille, la musique de Pac-Man, que je me souviens encore des paroles du dessin animé, rond comme un ballon, plus jaune qu'un citron.
William L'Energie, tout à fait.
William L'Energie qui chantait ça.
Exactement. Exactement. Et c'est un rôle très important, mais bizarrement, dans la construction, dans la production même des jeux vidéo, il a toujours été le parent pauvre. Et vous avez raison de souligner que pas du tout. En fait, ce qu'on retient, bizarrement, c'est le son. Même le son de Pong, qui est pourtant est tout faible, eh bien, Nolan Bushnell, on en parlait tout à l'heure, l'a imposé. Alors lui, il parlait à son ingénieur, il lui disait « Je vais entendre des bruits de foule, je vais entendre la balle, je vais entendre crier les joueurs. » Bon, bref, ça fait un petit poc-poc-poc, mais il n'empêche que même ce petit poc, on le retient.
On s'en souvient, il est inoubliable. Pong, Pac-Man, Tetris, c'est de jeux vidéo, figurez-vous, qu'il est question aujourd'hui dans Qui Vive, en compagnie de celui qui les connaît le mieux, Jean Z, que l'on retrouve sur Europe 1, non sans avoir écouté d'abord une chanson mélancolique, mais idoine, Video Games, Lana Del Rey. À tout de suite.
Europe 1, Qui Vive, tous les samedis, 15h-16h.
Swinging in the backyard, pull up in your fast car, whistling my name. Open up a beer and you say get over here and play a video game. I'm in his favorite sundress, watching me get undressed, take a body downtown. I see you the bestest, leaning for a big kiss, put his favorite perfume. Play a video game. It's you, it's you, it's all for you. Everything I do, I tell you all the time. Heaven is a place on earth with you. Tell me all the things you wanna do. I heard that you like the bad girls, honey. Is that true? It's bad.
Games nous éloignent-ils du monde ou nous donnent-ils à mieux le sentir? Sont-ils le signe de la déprime ou bien une source de joie? Peut-être les deux d'ailleurs. On revient là-dessus très vite avec notre invité aujourd'hui, Jean Z.
Europe 1, qui vive? Raphaël Antoven.
Quand il lance son pari, son fameux pari à l'incroyant, Blaise Pascal lui dit la chose suivante. Que Dieu existe ou non, tu as tout intérêt à y croire. Et parce que si tu joues au libertin, si tu crois pas en Dieu et que Dieu n'existe pas, tu n'auras gagné qu'une quantité finie de petits plaisirs. Mais si Dieu existe et que tu t'es vautré dans la débauche, alors tu auras troqué une infinité de vies joyeuses contre une éternité de souffrance. Alors le pari de Pascal ne fonctionne que parce qu'on n'a qu'une vie, une seule, et qu'on ne peut pas la gâcher. Le propre du jeu vidéo est justement de lever cette angoisse pour nous proposer peut-être enfin une existence qui ne serait pas marquée par le sceau terrible de la finitude.
Et oui, nous avons parlé de Limbo dans un premier temps. Dans ce jeu de plateforme et de réflexion, vous devez guider un enfant à travers des paysages désolés pour l'aider à retrouver sa petite sœur. Véritable métaphore à mes yeux, je précise, des étapes de l'acceptation de la mort, Limbo est un exemple excellent du Die and Retry. Vous avez remarqué que devant le héros, il y a deux pièges à loup prêts à faire de vous la moitié d'un petit garçon. Vous allez donc mourir, repartir au dernier point de contrôle et recommencer en évitant cette fois les pièges.
Alors sorti en 2010 sur Xbox, Limbo est, selon le youtubeur, l'excellent youtubeur Petit A de Pixel, un ovni vidéo ludique qui remet au goût du jour la vieille tradition des Die and Retry. Ceci n'est pas le titre d'un James Bond, ça veut dire meurs et essaye encore. Ça aurait pu, hein. Non, James Bond c'est Die Another Day, enfin il y en a plein.
Il y en a plein.
Live and Let Die, enfin là c'est Die and Retry, meurs et essaye encore. Une fonction très intéressante dans le jeu parce qu'effectivement elle immortalise le joueur.
Oui, elle immortalise, et ce qui est étonnant dans
faut dire un mot sur ce que c'est, hein, ce que
Die and Retry, bon, bah en fait, Die and Retry,
c'est que t'as autant de vie que tu veux, quoi.
Exactement, voilà. on meurt, on revient, et on va dire que la modernité du jeu vidéo, c'est-à-dire sa capacité technique maintenant à enregistrer tout ce qu'on fait quasiment en temps réel, c'était pas le cas à notre époque, hein, les Super Mario Land, etc., etc. Non, il n'y avait pas de Die and Retry, à un moment, il y avait trois vies, puis finalement, il y avait Game Over, il fallait recommencer l'aventure depuis le début.
Ça coûtait cher, pardon, mais quand c'était pas la console qu'on avait à la maison.
Oui, heureusement, c'est vrai que c'était cher.
Alors c'était l'argent était comme une limite d'une certaine manière.
Exactement. Hein. Et puis pour le coup le Die and Retry, mais Retry dans le monnayeur. Oui, là il y avait du monde dans les salles d'arcade.
Voilà. La façon de Coluche qui gagne et qui joue encore et qui remet un franc pour récupérer un coca. Oui.
Et c'est la modernité et les technologies qui permettent aujourd'hui ce Die and Retry de mourir, de revenir, de mourir, de revenir. Mais il y a un combat idéologique, j'allais dire quasi philosophique désormais dans le jeu vidéo, puisqu'il est permis aujourd'hui de mourir, de revenir, de mourir et de revenir. Il y a des jeux qui ne permettent pas de revenir, en tout cas, où le héros, c'est-à-dire vous ne revenez avec quasiment rien. Un bout de bâton, vous aviez une grosse épée, vous revenez avec un bout de bâton, avec plus rien, il va falloir repartir quasiment de zéro, pas de la carte, pas du plan, là, ça vous, de l'aventure, vous repartez à l'endroit où vous êtes mort, mais du coup, il va falloir recommencer avec ses caractéristiques et à reprendre des forces. Et du coup, aujourd'hui, il y a un combat philosophique entre cette mort, on va dire, instantanée, quasiment invisible. On ressent rien, il n'y a pas d'enjeu. Et puis un jeu vidéo qui veut revenir aux enjeux les plus forts. Non, la mort, ça signifie quelque chose.
Vous avez parlé de Mario tout à l'heure, Super Mario.
Oui.
Bon. On est tous des enfants de Super Mario,
c'est
la majorité d'entre nous. On connaît tous Super Mario, le plombier italien qui est une invention japonaise.
Oui.
Donc on est tous des enfants de Mario. Et une particularité de Mario, c'est que quand il s'approche d'un univers dangereux, même s'il est au bord de l'abîme, même si l'univers s'apprête à l'engloutir, même s'il va tomber dans un trou noir et qu'il doit sauter et effectuer un saut périlleux très compliqué, il continue de faire « waouh ». C'est-à-dire qu'il est en permanence gai, il est joyeux, comme on disait à l'époque. C'est quelqu'un qui est quelqu'un, une entité constamment joyeuse, comme si la mort n'avait justement aucun effet sur lui. Je me demande si la popularité de Mario ne vient pas aussi de sa capacité à dire waouh alors qu'il est au bord du gouffre.
Oui, il y a une autre chose étonnante, c'est que pourquoi lui ? C'est-à-dire pourquoi Pac-Man ? Pourquoi Donkey Kong ? Pourquoi finalement le jeu vidéo et les gens, le grand public, pourquoi ils ont choisi ces êtres-là, effectivement, comme vous dites, un peu joyeux ? Pac-Man, c'est la joie infinie, c'est la gourmandise jusqu'à la fin, jusqu'à la mort, j'allais dire. Et Mario, c'est le même cas, une espèce de joie continue, infini. Pourtant, Dieu sait qui meurt. Enfin, en tout cas, moi, je suis pas...
Mario meurt
sans cesse pour sauver la princesse Peach et contre Bowser. Mais effectivement, il représente cette espèce de joie de vivre malgré tout et malgré la mort.
C'est vrai que dans l'univers d'un enfant, Bowser est une figure terrifiante. La princesse Peach est un objet de désir et Mario est un personnage merveilleux. C'est l'Indiana Jones des enfants et c'est toujours la même histoire. Un point d'ailleurs sur cette... C'est le philosophe Mathieu Triclot qui parle de l'ambiguïté de l'état ludique. Il dit ceci. Pour exister, le jeu demande un engagement total, sérieux, mais qui doit se doubler de la conscience que c'est pour de faux, que l'activité est fictive et irréelle. Comment est-ce qu'on peut s'engager totalement dans quelque chose sans oublier à un moment qu'on ne fait que jouer, en fait ?
Je pense parce qu'il y a des éléments, les deux ne vont pas de pair, c'est-à-dire que l'un va après l'autre. Il y a toujours un élément, mais c'est encore le cas aujourd'hui, qui nous sort de l'irréel. L'irréel qu'on a cru. On a levé la crédulité, l'incrédulité, on devient totalement crédule, mais il y a le retour toujours quelque part, un petit indice, un son, maman qui passe, quelque chose qui nous sort de cette crédulité.
On oublie que les personnages qui nous interrompent pendant le jeu font partie du jeu lui-même.
Exactement.
En réalité. Ils font partie du décor du jeu. Il n'y a pas de jeu véritable sans une maman qui vous dit « assez joué maintenant
». Exactement, parce qu'il faut un moment... ressortir. Voilà, moi je crois qu'il y a pleinement et à 100% une rentrée totale dans le jeu, que ce soit de Pong d'ailleurs, à Skyrim, à Call of Duty, on y est complètement, et puis tout à coup, quelque chose, ou soi-même, on se dit hop, on ressort, ça y est, c'est fini, là, comme un interrupteur.
Alors on entre dans le jeu, mais qu'est-ce qui se passe quand c'est le jeu qui entre dans la vie ? Écoutez ça.
Zone de tir à 5%. Vas-y, Petra, tire !
7 secondes !
Petra, on n'a plus le temps! On a réussi! Vous en pensez quoi? Game over.
Europe 1, qui vive? Raphaël Antoven.
Alors on vient d'entendre un extrait de la stratégie Ender's Game, un film de Gavin Hood, qui date de 2013, qui raconte la guerre totale que mène l'espèce humaine dans un avenir lointain contre une espèce extraterrestre, les Doriforts. Et alors le jeune surdoué Ender est enrôlé dans une école de stratégie de guerre spatiale, où il s'entraîne à diriger l'armée dans d'énormes simulations vidéoludiques. Et en fait, il sauve l'humanité, il sauve le monde, sans savoir que c'est ce qu'il est en train de faire. C'est-à-dire qu'il croit jouer, alors qu'en réalité, il a la main sur les commandes de la réalité elle-même. C'est fascinant pour cette raison.
Oui, c'est fascinant, effectivement. Et le jeu vidéo tend vers ça, non pas avoir un impact sur la réalité, comme le jeune Ender, mais au contraire, avec la réalité virtuelle, comme le jeu vidéo est depuis toujours un créateur de monde, alors même si parfois les graphismes, comme dans Pong, sont minimalistes, le cerveau fait le reste, l'imaginaire fait le reste, et on commence à s'imaginer. Aujourd'hui, la réalité virtuelle nous trompe, littéralement. Elle nous bluffe. Le cerveau est bluffé. On présente à l'exposition, par exemple, un vol dans le ciel de Paris, à dos d'aigle. À un moment, l'estomac se soulève. On a les deux pieds bien appuyés au sol. Et pourtant, le cerveau envoie la commande à l'estomac de se soulever. C'est quand même prodigieux, c'est-à-dire cette capacité quand même des technologies à nous mentir, à notre propre cerveau.
Voilà, est-ce qu'on nous ment ? Est-ce qu'il y a une différence entre avoir faim et croire qu'on a faim ? Est-ce qu'il y a une différence entre survoler Paris à dos d'aigle et croire qu'on le fait ? Est-ce qu'on est dans un mensonge ? Et si le virtuel était plus réel que la réalité ? Les jeux vidéo sont au programme de Qui Vive ce samedi, en compagnie de Jean Z, commissaire de l'exposition Le jeu vidéo à travers le temps, qui a ouvert ses portes à la Fondation EDF le 1er mars dernier. On se retrouve tout de suite après une chanson parfaitement adaptée à la discussion qu'on vient d'avoir, évidemment, M sur Europe 1, Monde virtuel. Il vit dans un monde virtuel. La seule erreur qu'il fait peut-être est de croire que nous-mêmes n'en faisons pas autant. A tout de suite.
Raphaël Antoven.
Qui vive 15h, 16h.
Sur Europe 1. Europe 1.
Qui vive 15h, 16h.
Raphaël Antoven.
Le jeu est une hallucination délibérée, un rêve éveillé, une abstraction qui nous rapproche du réel, un mime intérieur qui nous invite à imaginer ce qu'on sent. D'ailleurs, un joueur de jeux vidéo imagine littéralement ce qu'il sent. Il mime les émotions qui lui sont attachées, tantôt par une contraction des muscles, du diaphragme, de la respiration, sinon du périnée. Bref, le jeu est un mime intérieur qui atteint la chair sans engager la vie. Alors, ceci n'est pas un extrait de « Il faut sauver le soldat Ryan » de Spielberg, c'est juste le début de « Medal of Honor ». Le jeu, le FPS, est un jeu, un FPS qu'on appelle un FPS, c'est-à-dire un « first person shooter ». C'est-à-dire, ce sont des jeux où l'on a le revolver dans la main, en fait. Hein, et on se débrouille avec ça, le revolver ou le pistolet, je le dis à l'intention de nos amis puristes. Alors, c'est une autre catégorie ici de jeux, c'est ce qu'on appelle les jeux expérientiels. Jusqu'où est-ce qu'on peut pousser ce paradoxe ? Jusqu'où est-ce qu'on peut avoir le sentiment d'immersion avec un jeu de cette nature ? Jean Z.
Oh, très loin. Hein.
Ça va très loin.
Ça
ouais.
va très loin parce qu'on est en vue à la première personne. Donc là, après tout, voilà, le monde est ouvert et puis c'est nous qui le voyons. Il y a en plus le héros est taiseux généralement. Donc on peut imprimer, on peut se projeter encore plus facilement. Ce qu'il y a dans une autre saga Call of Duty qui est la même chose, qui est un jeu de guerre à vue à la première
personne.
Call of Duty. C'est qu'en plus on joue un troufion. Et là, l'idée de génie des concepteurs, c'est d'être toujours à l'arrière, l'officier est devant, et finalement, on est un peu comme les autres. Et du coup, bah, forcément, là, on a envie de se projeter encore plus. Ça peut encore aller très loin. On parlait de réalité virtuelle. Là, ça va encore plus loin, parce que là, on a les yeux. On a les yeux dans le monde. Je me tourne. Le monde, on est dans le studio d'Europe 1, mais je mets le casque, je serai à Venise. Sur la place centrale, je me tourne et voilà, je suis sur la place centrale.
De toute façon, le monde qui nous entoure n'existe qu'au titre des impressions qu'il dépose en nous. Le jeu vidéo repose là-dessus.
Exactement.
Il n'y a aucune différence entre percevoir et croire qu'on perçoit.
Et heureusement, ce qui change aujourd'hui, c'est que évidemment, ces jeux de guerre sont des best-sellers, mais d'autres arrivent, des jeux indépendants. Au cinéma, on appelle ça la R&C. Et là, on commence à découvrir d'autres expériences. Je citerai celle de Firewatch, où on joue un garde forestier qui est pas bien dans sa peau. Sa femme est malade et il est américain et puis il a décidé de passer l'été là, de travailler là pour un peu oublier ses soucis. Et en fait, on a l'impression qu'on sauve un peu la forêt, mais en réalité, va se jouer quelque chose d'existentiel, d'émotionnel. On est toujours vu à la première personne et on va être un peu lui. Mais là, cette fois, c'est pas un taiseux, il parle et on va commencer à être lui. Et là, ça va très loin parce qu'on nous raconte un drame et puis finalement, on va le jouer le drame, on va l'être un petit peu. Il y a une question d'ontologie, hein, de toute façon, dans le jeu vidéo. Où est la rupture entre l'être, entre notre vie à nous, notre propre existence, et puis celle qui est jouée, celle qui se joue dans le jeu.
Alors vous donnez cet exemple-là, je vous en donne un autre, No Man's Sky.
Oui.
C'est un jeu magnifique,
oui.
C'est un jeu sans enjeu. Vous êtes aux commandes d'une navette spatiale et vous allez d'un système à l'autre, d'une planète à l'autre. Certaines planètes sont désertes, sans grand intérêt. D'autres sont magnifiques, mirifiques. Et il faut explorer, noter, relever des segments, des fragments, faire en sorte de transformer ce voyage en intérêt objectif. Et on se demande presque d'ailleurs ce qu'on inventera vraiment le jour où on inventera les moyens de vivre comme ça, effectivement. Parce que tant on en est déjà capable, tant l'imagination tient lieu de réalité ici.
Effectivement, maintenant on attend l'imagination, que l'imagination prenne encore plus le pouvoir. No Man's Sky, c'est un jeu infini. Il n'y a pas assez d'années dans nos vies pour explorer le monde de No Man's Sky. Ce sont des milliards réellement deux galaxies qui sont prévues. Alors, est-ce que ça a un intérêt ludique, du coup? Effectivement, ça coupe. C'est là où on est entre la réalité, la volonté de réalisme des créateurs et notre volonté de jouer quand même et de s'amuser. Et on parlait de réel et de ludique. Et ben là aussi, on a quelque part un affrontement des
idées. Il faut bien que le jeu réduise un peu la réalité pour qu'on s'y retrouve. Parce que sinon, on est comme les cartographes de Borges, dont la carte la plus précise du monde reste le monde lui-même.
Exactement. Ben, c'est un peu ça. Ben là, on nous propose le monde, on nous propose des milliards de galaxies. Est-ce que vous allez faire, je ne sais pas, Minecraft, qui est le Lego du 21e siècle, est un jeu infini. On va les construire, on va les déconstruire, on va les certains font Game of Thrones en grandeur réelle.
Ou Goldorak, d'ailleurs, ça marche aussi. Ou la Tour Eiffel. Ouais.
C'est fascinant. Mais on se demande effectivement jusqu'où ça peut s'arrêter. Et est-ce que finalement ça peut tuer le jeu vidéo, c'est-à-dire tuer ce qui fait aussi son essence, quelque part, son fun, ce qu'on peut appeler le fun, la joie, vous parliez de la joie de Mario.
Son côté sporadique, la liberté d'en sortir aussi.
Exactement. Parce que là, une fois qu'on est dans No Man's Sky, finalement, il n'y a que peut-être l'ennui qui peut nous en sortir, parce qu'à force, bien, voilà, il y a la redondance.
Et est-ce que ce qui nous sauve de Minecraft, que nos auditeurs connaissent, ou certains de nos auditeurs connaissent certainement, dont la particularité est que tout est carré, est-ce que ce qui nous sauve dans Minecraft, ça n'est pas justement qu'on est dans un monde en amont presque de l'invention de la roue?
Ah oui, complètement. Et puis effectivement, tout est carré, tout est élément. Alors que dans la vie, on voit pas tous les éléments. On passe comme ça, voilà. On passe dans une rue, on voit pas la pierre forcément. On voit une rue, on voit un caniveau, etc., etc. Là, on voit tout. C'est-à-dire que tout est élément. On sait qu'en dessous il y a du charbon. On va aller chercher du fer. On va couper pour avoir du bois. Il y a de l'eau, on va en récupérer. Bref, tout est outil ou tout est élément et ustensile. Donc voilà, il y a un côté utilitaire qui n'existe pas forcément dans la vraie vie.
J'adore cette émission vintage en votre compagnie, Jean Z. On va retourner vers le futur, c'est-à-dire en 1989, c'est-à-dire en 2015, ce qui à l'époque était le futur et qui désormais n'est plus que le passé, comprenne qui pourra écouter ça.
C'est un jeu vidéo! J'ai réussi à l'allumer. Mon père m'a parlé de ce truc-là.
Ça alors, Wild Gunman.
Comment on y joue?
Je vais vous montrer. Je suis un super crack à ce jeu, moi.
Servir de ses mains?
C'est fait pour les bébés, c'est un jouet.
Oh.
Un jouet pour bébé?
Europe 1, qui vive? Raphaël Antoven.
Ok, alors ça c'est très intéressant. Marty McFly, donc Voyage dans le temps, on est dans Retour vers le futur. Il se retrouve en 2015, donc ce qui à l'époque, quand le film a été tourné en 89, correspondait effectivement au futur lointain. Donc il se retrouve en 2015 et là il découvre des jeux d'arcade, une boutique nostalgique des années 80, et il découvre des jeux d'arcade. Alors lui il dit c'est génial, regarde je vais te montrer comment on joue, et les enfants se détournent de ça en disant on joue avec les mains, c'est naze. En réalité, en 2015, 2016, 2017, on ne joue jamais autant qu'avec les mains précisément. C'est même d'ailleurs, de ce point de vue, les jeux d'arcade avaient un coup d'avance sur les jeux qui les ont suivis. Un mot là-dessus, Jean Z, c'est important.
Et puis le jeu vidéo est né comme comme le cinéma, comme une attraction de fête foraine. Faut quand même pas oublier ça. Pong arrive dans les salles d'arcade, on n'en parle pas de console de salon encore, et donc il va séduire, tout le monde va se regarder un peu comme le train qui animait les tentes où on montrait pour la première fois le cinématographe.
La salle d'arcade, c'est un théâtre.
Exactement, c'est une scène. Il y a un côté pour la danse. Maintenant, on peut danser. Il y a un autre côté pour faire de la un cockpit et pour aller dans les airs. Un autre, on fait un jeu de course, mais avec une machine tellement incroyable qu'on a envie autant de la regarder que de la jouer. Effectivement, c'est une scène. C'est un théâtre, littéralement, il a été pensé comme ça.
C'est ça. La salle d'arcade est un théâtre, mais ce qui est important aussi, c'est que la Kinect, par exemple, de Microsoft, cette façon que l'on a de plonger totalement son corps dans un univers virtuel, est-ce que ça n'est pas un souvenir, justement, de l'époque où, avec les jeux d'arcade, le corps entier était engagé dans la pratique du jeu?
Le jeu vidéo est toujours une vieille histoire. Il faut toujours gratter pour voir que...
Le jeu vidéo est toujours une vieille histoire.
Exactement.
Voilà une bonne phrase. Dites-nous.
Et c'est une vieille histoire parce qu'à chaque fois qu'on voit une nouvelle technologie ou une pseudo-nouvelle technologie, il suffit de gratter le vernis pour s'apercevoir que pas du tout. La réalité virtuelle, ça fait 30 ans, 40 ans que ça existe. Ça existe pour former, par exemple, les pilotes d'Air France. On les insère dans un cockpit et on leur fait croire que c'est un peu le réel, et puis ils ont intérêt à y croire. C'est toujours, à chaque fois qu'on gratte, on trouve une vieille histoire et on remonte généralement avant 72 chez les chercheurs et ingénieurs. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est une des caractéristiques du jeu vidéo, de toujours faire croire, finalement, qu'il est nouveau et en réalité pas du tout.
C'est un théâtre et on est au théâtre. Mmh. Et pourtant, on n'est pas dupe de la réalité qui nous est présentée. Encore que la question se pose avec ce jeu-là. Écoutez.
Bienvenue aujourd'hui pour un nouveau live sur GTA 5 et vous avez été encore une fois très très nombreux à m'en redemander hein, et ça fait vraiment extrêmement plaisir. Alors cette fois-ci, je suis avec Trevor, voilà, nouveau personnage, le troisième personnage et j'ai mon petit buggy. Le buggy est génial. On va voir ça, franchement, il déboîte. Alors là, je suis de nuit, je vois pas grand-chose, mais c'est pas grave, on y va, on fout la merde. Alors là, il est en train de parler avec quelqu'un, je sais pas ce qui se passe. Ah, je crois que j'ai une mission, bon, je vais pas la faire, c'est pas grave, on va l'ignorer, on va juste faire le con comme ça, regardez le buggy, on peut tout défoncer.
Alors ça c'est un extrait de la chaîne du gamer Skyros qui joue à GTA Grand Theft Auto en mode libre, ce qu'on appelle en mode libre. Alors, en peu de mots, hein, GTA c'est un jeu de rôle, RPG, donc un role-playing game à monde ouvert. On y conduit la vie d'un ou plusieurs personnages à travers des missions mais aussi dans des temps libres où on fait rigoureusement ce qu'on veut dans un monde immense. C'est un univers sans morale, on peut faire exactement tout ce qu'on n'a pas le droit de faire quand on est sous l'œil de la police.
Vous venez de définir le jeu vidéo, on a le droit de faire tout ce qu'on veut. Ouais. Même sous l'œil de la police, on va dire. Là, pour le coup,
Dans GTA, oui.
Oui, pour être précis. Pour paraphraser, jeu est un autre, et même pour être précis, jeu vidéo est un autre. Si je joue, on parlait de Mario le plombier italien. Pourquoi on joue un plombier italien? Mais parce que c'est fun, parce que c'est rigolo, parce que c'est la joie de vivre. Alors là, vous allez me dire, oui, mais on joue des truands, et puis on devient tout à coup le méchant. Ben oui, mais parce que dans la vie, on n'est pas forcément un méchant, et puis on va se projeter, littéralement, pour reprendre une terminologie cinématographique, on va se projeter dans le rôle d'un méchant et le jouer encore plus parce qu'on sait que c'est virtuel. On va le jouer à 100%, c'est ce qu'on disait. Tout d'un coup, on est dans le vrai. Est-ce que ça veut dire pour ça qu'on est réellement un méchant dans la vie? Je ne crois pas. Mais effectivement, la moralité, puisqu'on peut la jouer, eh bien, on la joue. Et puis, on la joue à 100%, s'il vous plaît, parce qu'à 99%, ça fait encore moins plaisir.
Le grand fan de Mortal Kombat que je suis, oui. Espère que vous avez raison. Mouette, Pixel, effet de réel, GTA, etc. C'est de jeux vidéo et de leur philosophie qu'il est question aujourd'hui dans Qui Vive, en compagnie de Jean Z, qui publie au Seuil un très bon livre sur les jeux vidéo, Game. On se retrouve après une chanson moins mélancolique que la première, mais qui fonctionne tout à fait. Thomas Dutronc, Oiseau fâché.
Europe 1, Qui Vive.
Tous les samedis, 15h-16h.
Raphaël Antoven.
Êtes-vous certain que le monde extérieur existe, que votre voiture continue d'exister quand vous ne vous en servez plus, qu'un paysage reste le même pendant que vous ne le regardez plus? Nous n'avons pas d'autre preuve de l'existence du monde extérieur que le fait qu'on le retrouve quand on ouvre les yeux et qu'il est à peu près le même pour tous. Mais si c'est ça la réalité, alors les jeux vidéo vous offrent autant de réalités parallèles qu'il y a de licences. À chaque fois, vous vous connectez à un monde identique et vous y rencontrez des vrais gens.
Hey, où vous êtes les mecs?
On est là, près du chariot.
Ok, me revoilà.
Putain, on t'attend depuis des heures.
Venez, il faut finir la quête de Stonehaven.
Stan.
Une seconde les mecs, mon père m'appelle.
Stan.
Quoi?
T'as passé le week-end sur ton ordinateur, tu ferais bien mieux de sortir et de rencontrer des gens.
Je rencontre plein de gens, espèce d'attardé. Je suis logué sur un MMORPG avec plein de gens du monde entier et je suis en contact avec mon groupe, avec TeamSpeak.
Je suis pas un attardé.
C'est réglé, excusez-moi les mecs.
On fait quoi maintenant? Tu vois où je suis? C'est par là!
Allez mecs, en route! Clique droit et suivez-moi!
South Park, encore et toujours sur Europe 1 dans Qui Vive. Alors dans cet épisode, Kyle, Stan, Kenny et Cartman jouent en réseau à World of Warcraft. C'est-à-dire que connectés chacun chez soi à Internet, ils incarnent des personnages numériques qui évoluent dans un monde commun. Le monde de Warcraft, où ils mènent une vie de progression individuelle et de résolution de quêtes communes. Alors ce qui est intéressant, c'est l'irruption de Randy, qui reproche à son fils Stan de passer tout son temps enfermé dans sa chambre au lieu de sortir et de rencontrer des gens. À quoi Stan rétorque, mais cette scène, tout parent l'a vécue. À quoi Stan rétorque que pas du tout, il joue à un jeu de rôle en ligne massivement multijoueur, en anglais MMORPG, Massively Multiplayer Online Role Playing Game, et qu'il est donc plus dehors et à la rencontre d'autres gens qu'il ne le sera jamais dans le monde réel. C'est quand même un argument excellent. Qu'est-ce qu'un père de famille peut répondre à son fils qui lui dit « Mais papa, je vois beaucoup plus de monde quand je regarde l'écran de mon ordinateur que quand je sors de chez moi. »
Et Dieu sait que c'est vrai, parce que c'est MMORPG maintenant qu'ils sont aussi dans les
MMORPG,
smartphones.
MMORPG, hein, oui, ils sont dans les smartphones.
Et ils sont aussi dans les smartphones. Moi, je connais des couples qui se sont rencontrés grâce
Moi, je connais des couples qui se sont séparés à cause de ça. Mais alors, c'est une autre histoire. Alors, allez-y.
Ouais, moi, j'étais plutôt dans le versant positif.
Oui, bien sûr.
Mais moi, j'ai rencontré des couples qui se sont. Voilà, qui se. Et. Et le jeu vidéo n'a jamais été autant social ou socialisé. Et c'est peut-être même son danger. Tout le monde dit oui, les jeunes s'enferment, etc., etc. Non. C'est tout le contraire. On est extrêmement socialisé. On va retrouver ses copains effectivement sur World of Warcraft ou sur Clash of Clans, sur toutes ces formes en fait de jeux vidéo où on doit retrouver des amis, des copains, parfois même la famille. Enfin, c'est extrêmement étonnant cette transformation à peu près. Là aussi, grattons le vernis dans les salles d'arcade. Qui allait-on retrouver?
Des amis, copains, bien sûr.
Mais évidemment. Et on est.
Il y a une petite dimension avec les jeux en ligne qui fonctionne assez bien avec les familles éclatées. C'est-à-dire quand il y a des enfants partout, une passion commune, c'est un espace commun. Finalement, l'espace virtuel sert d'espace commun à tous les participants d'une famille qui se retrouve disperdue dans le monde.
Oui, mais malheureusement, et c'est peut-être aussi son point faible, il est excluant à la famille qui est à l'intérieur du foyer. On entendait le père, et le père a raison de s'inquiéter. Mais moi, je me souviens, j'ai été addict à la littérature adolescent. Je me suis enfermé pour lire. Je lisais quasiment un roman par jour.
Et on venait vous en faire le reproche ou pas?
Et c'est bizarre. Hein.
Et pourquoi est-ce qu'on reproche pas à un enfant de lire et on lui reproche de jouer aux jeux vidéo?
Alors parce que j'imagine que c'est quelque chose de culturel. La lecture en France et la littérature, hein, elle est devant la littérature, devant le jeu vidéo. Hein. Le jeu vidéo n'est pas le premier divertissement ou loisir ou la culture, etc. Ce qu'on veut, la terminologie qu'on veut, mais elle est encore derrière les librairies, etc. On aime lire, on aime la littérature. Enfin, je l'espère.
On dit qu'on aime la littérature et on préfère les jeux vidéo, mais on le dit pas. C'est un peu la façon dont du film qu'on dit préféré, du film qu'on préfère vraiment ?
Exact. Je crois qu'il y a un rite initiatique en France et peut-être ailleurs qui dit que quand on passe à l'âge adulte, comme un rite initiatique, on doit abandonner le jeu. Or, vous le disiez en début d'émission, le jeu, on ne fait qu'en parler, le jeu politique, le jeu social, ce mot jeu s'incruste finalement partout. Mais finalement, pas de jeu vidéo pour les adultes. Mais je crois que c'est une erreur parce que quand on oublie son enfance, quand on oublie l'enfance, au bout d'un moment, l'enfance vous rattrape toujours dans votre vie d'adulte. Et mieux vaut tôt que jamais pour récupérer cette petite part d'enfance et pour pas qu'elle explose, elle vous explose à la figure.
Mettez-vous au jeu le plus tôt possible. Exactement. Cela dit, par exemple.
Mais on fait des enfants peut-être aussi pour ça, hein, pour jouer avec eux, pour leur transmettre des livres et des jeux, etc.
C'est possible. Mais alors justement, tiens, la situation d'un enfant qui, perdu dans sa lecture, ne voit même pas le soleil se coucher. C'est une situation que décrit Proust dans ses textes sur la lecture. Mm-hmm. Saisi par la lecture, il ne voit pas la lumière qui s'estompe. Il s'en aperçoit quand il fait noir parce qu'il n'arrive plus à lire. Mm-hmm. Mais il n'a pas vu la dégradation du jour. Et ça, on trouve ça magnifique, on trouve ça merveilleux. Alors qu'un enfant qui joue toute la journée et qui sort de chez lui un moment et qui s'aperçoit qu'il fait nuit, on trouve ça désastreux.
Oui, et c'est bizarre parce que le jeu vidéo, on le compare souvent au cinéma. C'est normal parce que maintenant, dans chaque éditeur, il y a des studios de cinéma. Voilà, ils ont piqué cette idée, ils ont copié littéralement ces modes de production. Et pourtant, pour moi, le jeu vidéo a plus de rapport avec la littérature. Pour moi, c'est un voleur de temps. La littérature, c'est aussi un voleur de temps. Il vous vole littéralement votre temps. Il passe une heure de jeu vidéo et c'est 10 heures dans la vie réelle. C'est pareil pour les livres. Et finalement, est-ce qu'on doit s'en méfier? Oui, non. En tant que parent, j'imagine qu'il faut avoir un œil observateur. Hein, on ne nous la fait pas. Mais voler le temps, finalement, il y a aussi des moments magiques. Vous le disiez, ne pas voir le soleil se coucher ou ne pas le voir se lever. Je trouve que c'est aussi des moments magnifiques.
Merveilleuse faculté d'oubli que seul le jeu et la littérature nous fournissent. On a parlé de Mario tout à l'heure. Reparlons de Mario, mais cette fois-ci avec son véhicule. Écoutez ça, Mario Kart.
On joue énormément au bureau à Mario Kart. Il n'y a pas si longtemps que ça, Alex vient me voir et me dit « Tu es bizarre, j'ai réussi à éviter une carapace bleue. » Donc la carapace bleue dans Mario Kart, c'est la carapace qui rattrape le premier joueur systématiquement.
La technique pour éviter l'inévitable.
Grande frustration à Mario Kart, on arrive sur une ligne d'arrivée, systématiquement on se prend la carapace bleue dans la tronche. C'est énervant. Regardez ce qui va maintenant se passer sur le même virage. Je prends mon virage, carapace bleue, hop.
Éviter, comment t'as
éviter.
Fait
comment est-ce qu'on fait?
Europe 1, qui vive. Raphaël Antoven.
Alors ça, c'était un truc extraordinaire. Mario Kart, j'ai toujours été nul à Mario Kart. Enfin, c'est un jeu étonnant parce que les voitures dont on dispose ont également des armes qu'elles peuvent récupérer au gré du parcours et qu'elles envoient évidemment sur les autres concurrents. Donc on n'a vraiment jamais gagné avant d'avoir franchi la ligne d'arrivée dans Mario Kart. Mais selon le présentateur, il y aurait un moyen de se débarrasser de cette injustice, presque comme on introduirait de la rationalité dans le bordel absolu de ces courses de cartes fantasques.
Effectivement, et puis Mario Kart, c'est quand même l'injustice, vous parlez d'injustice, c'est l'injustice de la vie.
L'injustice absolue.
Le jeu vidéo, ce n'est pas la vie. Truffaut disait le cinéma, ce n'est pas la vie. Le jeu vidéo, ce n'est pas la vie. Sauf
mais il y a de l'injustice quand même.
Sauf quand on y met de l'injustice, cette fameuse carapace bleue qu'on normalement on peut pas éviter. Bon là visiblement il a vu un petit bug dans un virage, il a réussi à l'éviter. Mais généralement à 99% on ne l'évite pas. Et
la
on est premier.
Carapace bleue signifie explosion de la voilture.
Voilà,
et
exactement.
Donc on repart ouais, ensuite.
Bah, et sauf que le deuxième, troisième, quatrième, bah, eux ils ont pas oublié et ils vous passent devant. Et au dernier tour, bah voilà, vous étiez premier pendant deux tours et demi. Sauf que le dernier demi-tour, c'est fini.
C'est à la dernière minute de la vie qu'on sait si elle a été réussie, dit Montaigne.
Voilà, et la vraie vie vous a rattrapé, en tout cas dans un jeu vidéo. Mais c'est pour ça qu'il y a quelque chose de difficile avec le jeu vidéo, c'est que ses règles sont précises et que quand on est bon dans un jeu vidéo, généralement, on gagne. Ce qui n'est pas la vraie vie. Ce qui est assez bizarre, c'est que comme passage initiatique, c'est assez difficile parce que quand on se retrouve face à la vie réelle, qui est irrationnelle, qui va un peu dans tous les sens, qui va un peu comme dans les rues de Paris ou de Toulouse, un peu comme ça, au diable Vauvert. Dans le jeu vidéo, ce n'est pas le cas. Et là, on a le cas de Mario Kart qui est l'inverse. Donc tout le monde râle, rouspète, hurle. Mais il y a un côté génial, qui est le côté génial de la vie.
Dans ce troisième volet de la saga Tropico, à nouveau direction une île paradisiaque tenue d'une main de fer par un dictateur tout-puissant et sans scrupules, vous. En effet, il s'agit ici de gérer une île imaginaire des Caraïbes en pleine période de guerre froide. Tropico 3 apparaît au final comme une belle évolution de la saga, pleine d'humour et d'immoralité, surtout quand il s'agit de promulguer des lois favorisant à 1000% votre profit financier et matériel.
Depuis tout à l'heure, Jean Z, on parle de jeux extraordinaires, Mario, Mortal Kombat, Mario Kart, GTA, ce sont des mondes virtuels mais aussi des mondes parallèles. Or il y a une autre catégorie de jeux, ce sont les jeux qui vous apprennent, on l'évoquait très rapidement quand même tout à l'heure mais pas suffisamment, qui vous apprennent à gérer un hôpital ou une prison sans autre salaire que la contemplation de sa réussite. C'est quand même très étonnant ce jeu. Alors là par exemple on a un jeu Tropico 3 où le joueur est dans le rôle du président d'une république dictatoriale en pleine guerre froide. Donc le moi est élevé au rang de démiurge, mais de démiurge gestionnaire. Quel plaisir peut-on prendre à mimer à ce point le réel ?
Il y a un côté God Game, c'est-à-dire on joue à Dieu. Tout simplement, ça existe depuis longtemps, là aussi, en grattant dans le jeu vidéo. Wheelwright, le développeur Wheelwright, a peut-être inventé ça avec SimCity. Pourtant, il a essayé de le vendre, hein, ce jeu, il y est arrivé de justesse.
Vous l'avez dit une seconde après que Thomas Caillet me le susurre à l'oreille. SimCity, vous pouvez affranchir le néophyte que je suis.
SimCity, bah, vous êtes un gestionnaire de ville, vous êtes un architecte de ville, donc des égouts jusqu'au gratte-ciel, il faut tout imaginer, tout construire.
Avec toutes les galères du truc.
Exactement, les centres commerciaux, la zone industrielle, etc. etc. Alors,
mais à quoi bon ?
Mais c'est ça exactement, bah, c'est ce qu'on dit chez les financiers. Il en a rencontré un, il a dit que c'était la soirée pizza la plus importante de sa vie. Évidemment, il y avait un autre financier et l'autre financier s'est dit, mais mon Dieu, c'est le super truc qui va arriver, ça c'est génial, j'y mets un billet. Et SimCity a été un carton, c'est passionnant. Je ne sais pas comment vous dire, c'est parti, on a toujours envie de mettre une pièce, on se dit, ah oui, bah, j'ai construit ça, ah là, ça marche. Ah bah non, là, le quartier, là, ça marche pas, ça devient malfamé, il faut que je mette un commissariat, et etc., et etc., et etc. Et la machine vous pousse sans cesse à imaginer votre ville. Voilà.
Je me souviens d'une expérience, alors ça n'a rien à voir avec SimCity, c'était Jurassic Park Builder, qui consiste donc à augmenter le parc qu'on est en train de construire. Il n'y a pas d'autre fin que ça, il n'y a pas d'autre but que ça. Il y a les animaux terrestres, il y a les animaux aériens. Mais j'ai trouvé ça merveilleux. Et je me suis demandé pourquoi je trouvais ça merveilleux. J'ai dépensé une fortune à jouer à ça. Je me suis demandé pourquoi je trouvais ça merveilleux. Il y a un texte de Bergson qui dit que les joies véritables, c'est le sentiment d'appeler quelque chose à la vie. Il y a quelque chose avec le jeu. Il dit, on ne tient à la médaille et aux honneurs que dans la mesure où on n'est pas sûr d'avoir réussi. En revanche, quand on appelle quelque chose à la vie et qu'on constate que ça se met à fonctionner et que ça fonctionne tout seul, est dans l'ordre de la joie, de la joie pure, de la joie véritable.
Je
Est-ce que c'est une explication, ça ?
C'est une explication. On joue à Dieu. Alors, le Dieu de l'hôpital, le Dieu de la ville, voilà, on joue à un constructeur. Ce qu'on ne peut pas faire, on disait jeu est un autre, ce qu'on ne peut pas forcément faire dans la vraie vie.
Mais c'est un Dieu qui se tape les galères de la réalité.
Ah oui, là,
quand
pour
même,
le coup,
hein, c'est
oui,
ça que je veux dire.
Oui,
c'est
là, il laisse pas.
Il doit investir, il doit attendre, ou alors ça coûte cher. Enfin,
oui, il ne fait pas comme Dieu, il ne laisse pas juste le libre arbitre, puis il s'en va, il va faire autre chose de sa vie. Non, là, il laisse le libre arbitre, mais en plus, les gens ont les libres arbitres, mais il faut quand même construire tout ce qu'il y a autour pour que ça fonctionne. Donc il y a un côté extrêmement gestionnaire, comptable, mais il y a un côté créateur, démurge.
C'est sur ces mots qu'on va arrêter l'émission. C'était vraiment un bonheur de vous inviter, Jean.
Merci à vous.
Et de vous avoir dans Qui Vive sur Europe 1. Merci d'être venu partager avec nos auditeurs vos connaissances et surtout votre passion du jeu vidéo. De vous, je signale Game, paru en 2017 au Seuil, ainsi qu'une philosophie du jeu vidéo de Mathieu Triclot. C'est chez Zone. Merci à mes camarades, les gamers, Julien Tricard et Thomas Caillet. Thomas Caillet, l'homme aux doigts de fée, dont le cerveau est en ébullition.
On se retrouve la semaine prochaine pour une rediff. Tiens, pour une fois, vous pourrez, si le cœur vous en dit, écouter de nouveau l'émission que nous avions consacrée à la philosophe et non la femme politique, Simone Veil, dont les textes sur le travail sont splendides et doivent être connus de tous. Simone Veil, donc, dans Qui Vive, c'est samedi prochain de 15h à 16h, et quand vous voulez, sur Internet. On quitte le jeu sans plus attendre et ses contrefaçons du réel pour l'art qui, loin d'imiter la nature, accomplit le tour de force de l'exprimer. La musique, évidemment, et ses cantateurs-présentateurs qui vous emmènent en souriant sur des sentiers harmonieux. Jean-Philippe Ballas, Émilie Mazoyer, notre Octave et notre Mélodie prennent l'antenne pour 2 heures trop brèves. Europe 1 Music Club, c'est maintenant à vous de jouer, les amis.
Merci Raphaël, je suis Mélodie, voici Octave. Qu'est-ce qu'on fait Octave aujourd'hui dans l'Europe 1 Music Club?
On a plein de beaux invités, on a Grand Corps Malade.
Oui.
Et puis du live, ce sera avec Vianney et Vincent Delerme, entre autres. Joli programme.
A tout de suite.